Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de Paul que nous venons d'entendre s'inscrit dans une très longue méditation concernant la résurrection. Paul s'adresse là à des chrétiens tels que nous, des chrétiens qui voudraient posséder une bonne fois pour toutes une réponse claire et précise sur le quand et sur le comment de la résurrection. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Paul nous explique pourquoi la résurrection est d'abord et avant tout un article de foi incontournable. D'où ses propos. Si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors, conclut Paul, notre prédication est vide, et vide même notre foi. Autrement dit, notre témoignage de chrétien, tout ce que nous faisons, là, entre nous, n'a strictement aucun sens si son fondement premier, la résurrection, n'est pas solidement attesté, proclamé et prêché. Et Paul va même plus loin, en renchérissant que si nous n'attestons pas cela, nous en arrivons à être, dit-il, des faux témoins. C'est la résurrection comme événement fondateur de toute notre foi qui justifie la mission des disciples, c'est-à-dire notre mission, qui est de l'adresser sans cesse à tous les hommes et toutes les femmes, sans exception. Mais dire cela et le répéter ne résout en rien la première et seule question qui nous vient à l'esprit. Que voulons-nous dire aujourd'hui quand nous utilisons le mot « résurrection » ? De quoi s'agit-il? Avouons que nous en sommes même arrivés à la crainte, à défaut de l'employer, d'avoir même à entendre le mot. Car, sous le signe de cet événement que nous avons traduit en français dans notre langue chrétienne par le mot « résurrection », s'ouvre précisément une absence de représentation, une impossible figuration. Nous ne voyons pas de quoi il s'agit. Un vacillement de la langue qui tente de nous dire un événement qui échappe à notre compréhension. À quoi ressemble l'explication de ce mot ? Se plaît à répéter le philosophe Wittgenstein. Il ne suffit pas de dire que les mots grecs parlent bien d'éveil, de réveil, de relèvement, pour dire ce qui n'est ni simple, ni forcément humain. Effectivement, Christ est bien celui qui est élevé et éveillé des morts. Nous nous plaisons de le confesser et de le répéter. Pour autant, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas forcément plus simple ni plus banal de croire au réveil de la mort une fois crucifié. Crucifixion dont nous voyons bien en quoi cela consiste, même si nous ne l'avons jamais vu, à savoir agonisé, en pleine souffrance, pendu par des clous à deux pieux de bois. La résurrection, Par contre, reste un événement sans description, donc sans mots, et c'est bien ce qui nous dérange profondément. Au même titre que cela a bousculé les premiers témoins, comme nous le rappelle l'évangile de Marc. Les femmes, étant entrées dans le sépulcre, virent un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles s'épouvantèrent. Et lui leur dit, « Ne vous épouvantez point, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Mais allez, dites à ses disciples, il vous précède en Galilée, là où vous le verrez. » En sortant, les femmes s'enfuirent, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Pour écrire la résurrection, les premières communautés chrétiennes ont fait bouger le langage, ont transmis dans l'écriture même de leurs témoignages le bouleversement qu'est le sens de l'événement que ces communautés entendaient transmettre. Ce que nous finirons par désigner par le mot de résurrection est un irracontable. C'est le suspense même de la narration évangélique. C'est le bord et le tranchant de l'évangile lui-même. Ce qui nous ramène au même point que ces premières communautés chrétiennes qui confrontent Paul à la simple question qui nous habite tous, comment les morts ressuscitent-ils et dans quel corps reviennent-ils? Convenons-en, Paul n'en sait strictement rien. La seule chose qu'il peut dire avec certitude, c'est que notre corps ressuscité sera tout différent de notre corps terrestre. Et rappelons-nous qu'après sa résurrection, il est arrivé que Jésus aille se faire reconnaître par ses disciples, comme par exemple les compagnons d'Emmaüs, qui ne l'ont pas reconnu spontanément. Souvenons-nous Marie de Magdala qui a commencé par le prendre pour le jardinier et qui veut aussitôt le saisir avec les mains. « Ne me touche pas, lui dit le ressuscité. » Et en établissant cet écart, le ressuscité nous fait comprendre que la seule voie possible pour le connaître, c'est la foi que les mains ne peuvent pas atteindre le ressuscité. Ce n'est que du dedans. Ce n'est que du dedans seulement que l'on peut s'approcher de lui. Ce n'est pas pour autant que les disciples ont compris. Thomas n'aura de repos qu'il n'ait mis ses doigts dans les plaies du Seigneur. Et Jésus se laissera faire. Il se laissera faire car il sait que ce n'est pas ça la voie qui conduit à la résurrection. Il se laisse faire, oui, mais il ajoute aussitôt « Bienheureux ceux qui ont cru et qui n'ont jamais vu. Bienheureux ceux qui ont cru et qui n'ont jamais vu. » Nous en sommes tous là, au point de se demander, ou en tout cas il faut se le demander, qui nous regardons à travers le Jésus des évangiles et des Écritures. Car comme le dit Origène, le père de l'Église, quand le Christ était dans la chair, tous ceux qui le voyaient ne pouvaient pas le voir. Ils voyaient son corps, mais ils ne pouvaient voir celui qui est le Christ. Effectivement, Pilate qui voyait Jésus ne voyait pas le Christ. Ni Judas, le traître, ne le voyait pas comme Christ. Ni même Pierre, qui, tout en le confessant, se mit à le renier. Il ne voyait pas le Christ. Au fond, personne ne l'a vu, parce que pour le voir, il faut entrer dans sa condition, c'est-à-dire dans la condition de sa personne divine. Et sur ce point, nous savons bien qu'entre nous, dans l'expérience humaine qui est la nôtre, qui est la plus profonde, il n'est quasiment pas possible de connaître vraiment un être, de le connaître dans son unicité, de le connaître dans son secret. Il n'est quasiment pas possible de le connaître sinon qu'en s'identifiant à lui, sinon qu'en s'oubliant pour l'accueillir, sinon qu'en se retirant avec humilité devant son mystère. Ainsi, il n'est quasiment pas possible de connaître le Christ Jésus dont toutes les fibres sont pénétrées de cette présence divine, sinon qu'en s'identifiant avec le mystère de son intimité par la foi et par l'amour. Si nous comprenons un tant soit peu cela, alors nous comprendrons pourquoi Paul nous amène à faire une distinction entre un corps animal et un corps spirituel. Distinction qui nous surprend certainement, comme elle a dû surprendre les auditeurs de Paul qui étaient habitués, comme nous le sommes encore aujourd'hui, à la distinction classique qui vient de la philosophie grecque entre le corps et l'âme. Mais pour Paul, formé et pétri par la méditation de la Torah et des Écritures, cette opposition n'existe pas. En revanche, ces méditations l'ont entraîné à opposer deux sortes de comportements. Celui de l'homme terrestre à travers l'image d'Adam et celui de l'homme spirituel inauguré par Jésus, le Messie de Dieu. Et c'est pour cela que Paul fait référence au livre de la Genèse. Parce qu'il y a dans ce livre, la vocation de l'humanité. Il y a longtemps que nous aurions dû nous entraîner à méditer la création dans la Genèse, non pas comme le reportage d'événements d'un quelconque passé, non pas comme un simple déroulement historique, mais comme des récits de vocation. Des récits d'un appel extraordinaire qui ne nous parle pas de la création en soi, mais bien du Créateur et de la relation que nous avons ou pas avec lui. Créés par le nom au-dessus de tous les noms, nous dépendons du Créateur. Nous sommes suspendus à son souffle vital, à ce souffle et cet inspire qu'il a insufflé en chacun de nous. Et c'est bien pour ça que cet acte créateur nous est présenté comme un projet loin encore d'être achevé. Rappelons-nous parce que nous l'oublions. Et vous le regarderez dans vos Bibles. La dernière phrase du poème de la création du livre de la Genèse, qui est au tout début du chapitre 2, verset 4, parle littéralement d'un enfantement, d'un engendrement, d'une naissance. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de la création, nous dit le livre. Et qui dit enfantement, dit appel à devenir. On en a plein d'enfants aujourd'hui. Tout ça, c'est notre devenir. Un appel qui nous concerne tous, puisque Adam, ce nom collectif qui englobe toute l'humanité, tous les êtres humains, a pour vocation d'être à l'image de Dieu, c'est-à-dire d'être habité par l'esprit même de Dieu. Adam, le terreux, modelé avec la glèbe et la boue du sol, est appelé, parce qu'il a reçu le souffle divin, à devenir le temple même de l'Esprit de Dieu. Pour autant, et cela aussi nous le savons même par nos propres expériences, Adam, c'est le type de comportement qui ne répond pas à sa vocation. Il préfère se laisser inspirer par cet être maléfique qui, tel un rampant, lui distille comme un venin la défiance vis-à-vis du Créateur. Et ce Créateur, Adam, il le déteste au point de vouloir prendre sa place. Il n'a qu'une hâte, celle d'effacer la parole disant qu'il a été fait à l'image de Dieu en la remplaçant par celle qu'il se fait à l'image de lui-même et de rien d'autre. D'où son goût à Adam pour le rien. Et qu'il n'y ait rien à part lui, lui permet d'être tout. C'est cela que Paul appelle un comportement terrestre, celui du reptile qui rampe à ras de la terre. Par contre, Jésus-Christ, le nouvel Adam, bien au contraire, et quelles que soient les situations, ne se laisse souffler ses comportements que par l'Esprit de Dieu. En cela, il accomplit la vocation qui devrait être celle de tout être humain, qui devrait être la nôtre. Et c'est le sens de la phrase de Paul. Frères et sœurs, l'Écriture dit « L'Adam des premiers temps était un être humain qui a reçu le souffle vital, alors que l'Adam des temps derniers, à savoir Christ, est devenu l'être spirituel qui donne l'esprit de vie. » Autrement dit, le comportement d'Adam mène à la mort par épuisement du souffle vital, alors que le comportement du Christ, comme temple de la grâce de l'Esprit de Dieu, mène à la vie sans fin. Étape d'opposition et de continuité, chacun de nous porte en lui ces deux hérédités, celle d'Adam et celle de Jésus-Christ, comme deux gènes. L'hérédité originelle de l'être physique, innée, du risque du manque d'humanité fraternelle, des possibilités du mal, de la fragilité de notre liberté. Et l'hérédité de l'être spirituel, par notre appartenance au Christ ressuscité, vainqueur de toutes les logiques mortifères. Et de fait, nous sommes tous, sans cesse, tiraillés entre ces deux comportements. Et notre histoire individuelle, familiale et collective, notre histoire comme celle de toute l'humanité, et ce long chemin qui avance, sillonnant entre toutes les idolâtries qui nous réduisent et tout ce qui peut remplir nos existences d'un souffle de vie, de l'éveil à l'inouï, c'est-à-dire qui peut nous combler de l'Esprit de Dieu. Comprenons alors que notre vrai questionnement n'est pas de nous arrêter à savoir comment et quand nous ressusciterons, mais bien d'arriver à comprendre à chaque jour qui passe comment, par notre manière d'être, par la réflexion, par la prière, nous pouvons nous dépouiller des agissements du vieil être d'argile pour revêtir l'être nouveau qui nous remplit du souffle d'humanité afin d'avoir cet élan pour aller vers la vie sans fin à l'image de celui qui vient des cieux, à savoir Jésus, le Christ de Dieu. À lui soit la gloire. Qui soyons-en sûrs, incontestablement, par son amour, sera aussi notre gloire. Amen.